France Inter.
Bonsoir Christelle Rebière.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, on parle d'inondation.
Oui, crues et décrues, la Vienne, ça s'agit, le niveau redescend, mais il monte de manière inquiétante dans l'Yonne et la Côte d'Or, passée en vigilance rouge. Premier nettoyage d'un côté, évacuation préventive de l'autre, et vous y reviendrez avec votre invité Fabienne.
C'est Laurent Laroche, il est maire de Bélabre, c'est dans l'Indre. Les autres titres, Christelle.
Le printemps de l'opposition turque, les élections municipales lui ont permis d'infliger une défaite historique au parti du président Erdogan. Nous serons à Istanbul. Une centaine de gendarmes à la recherche de nouveaux indices au Auvernais concernant le petit Émile. Union nationale des élus basques pour défendre deux militants qui seront jugés demain pour complicité de terrorisme avec l'ETA. Et nous entendrons des voix à la fin de ce journal venues d'un au-delà numérique. L'intelligence artificielle peut désormais cloner votre voix.
Au sommaire du 18-20 ce soir, nous dialoguons d'abord avec Tetiana et Volodymyr Yarmolenko que nous avions rencontrés en Ukraine pour un 18-20 spécial, ils sont à Paris. On est heureux de les retrouver, de voir comment ils vont près de deux mois après. Le reportage est en Israël avec le premier coup de boutoir de la Cour suprême dans un système qui perdure depuis des années. L'exemption militaire dont bénéficient les juifs ultra-orthodoxes. Christelle, vous nous direz qu'on ne plaisante pas avec le whisky japonais dans Sous les radars. Louise Baudet regarde de près les municipales en Turquie. Et Cyril Sauvageon est remonté bien avant Beyoncé pour nous parler de country noir. Au téléphone sonne en deuxième heure. On parle de la France clopobec, la France des autoroutes et des poèmes d'Éluard en conférence de presse. On parle des années Pompidou, 50 ans après la mort de Georges Pompidou, les années bonheur, nous dit-on, mais pourquoi donc? Est-ce qu'on fantasme tout cela? C'est ce que vous allez nous dire au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il scrute le niveau de l'eau depuis des jours. Impuissant.
Et les inondations se déplacent. La Vienne est en décrue. Le pire est passé. On commence à nettoyer, notamment du côté de Chinon. Mais la Côte d'Or et l'Yonne ont basculé dans le rouge. Et là, on fait du préventif. Premières évacuations. À chaque fois, l'eau monte brutalement et le reflux est lent. 8 départements sont en vigilance orange. L'Indre-et-Loire, la Saône-et-Loire, la Dordogne, la Gironde, la Charente-Maritime, les Bouches-du-Rhône et le Gard. Bonsoir François Ventéjou.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Alors, on fait le point avec vous dans l'Yonne d'abord. L'eau est montée toute la journée.
Avec une crue déjà exceptionnelle de l'Armançon, c'est un affluent de l'Yonne. À Aizy-sur-Armançon, la limite avec la Côte d'Or, la rivière a inondé les routes en quelques heures seulement ce matin. 36 habitations ont été évacuées. D'après le préfet, Olivier Murat est le maire de la commune. Il est marqué par la vitesse de montée des eaux.
On savait qu'on allait avoir un pic et puis ça y arrivait. Mais aussi soudain que ça, l'eau nous courait après. J'ai même ma voiture, j'ai remonté dedans vite fait parce que elle commençait à être dans l'eau. Donc j'ai dû passer par le côté passager pour pouvoir reprendre ma voiture. C'est monté vraiment à une vitesse et puis il y a un pic. Tout le centre-bourg est condamné. On peut plus passer autre qu'avec éventuellement une barque. J'ai jamais vu. Hein. Moi, j'ai travaillé à Voies Navigables de France avant. J'ai jamais vu ça.
Et ce soir, l'Armançon atteint près de 3 mètres. C'est 3 fois plus haut qu'hier soir à la même heure. Tous les records sont battus, sauf celui de 1910.
À l'inverse, le pire est passé cette fois en Indre-et-Loire, mais les habitants sont encore loin d'être au sec.
Oui, la vigilance rouge a été levée cet après-midi. L'heure est à la lente décrue. À Chinon, la Vienne est toujours au-dessus des 5 mètres depuis le pic ce matin. À 6 heures, elle a perdu une vingtaine de centimètres. Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Saint-Jacques. Ils peuvent rentrer chez eux cet après-midi. Autour de Loches, toujours en Indre-et-Loire, l'Indre-et-Loire retrouve peu à peu son niveau habituel, non sans conséquence. Un réservoir d'eau a été endommagé par la crue. L'eau du robinet n'est plus potable dans 4 communes. 810 habitants concernés. Gérard Reynaud est le président de la communauté de communes Loches Sud Touraine. Il est au micro de France Bleu Touraine.
Maintenant, on demande à nos habitants de ce secteur concerné de ne plus consommer l'eau, voire même jusqu'aux douches d'ailleurs, de ne pas pratiquer. Mais on met à disposition des packs d'eau garantis de bonne qualité. Donc comme ça, on contrôle correctement la situation.
Voilà, situation qui est contrôlée petit à petit. Gérard Reynaud, le président de la communauté de communes Loches Sud Touraine.
François Ventéjou.
Et bonsoir Laurent Laroche.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Bélabre, c'est dans l'Indre, une cinquantaine de kilomètres après Châteauroux. Vous avez écouté votre collègue à l'instant qui dit « c'est la vitesse de la montée de l'eau qui nous a scotché ». Et pour vous, c'est pareil, j'ai compris que l'eau avait grimpé d'1,50 m en 3 heures. Personne n'avait vu ça chez vous.
Oui, complètement. Voilà, nous avons été surpris par cette montée des eaux subite, exceptionnelle. On retrouve pas de crue aussi importante avant 1908-1910. Aucune prévision nous présumait une telle catastrophe.
Ça veut dire que les sinistrés, ceux dont la maison a été touchée, il y a 950 habitants chez vous, hein, il y a eu 44 sinistrés. Est-ce qu'ils ont pu rentrer chez eux? Est-ce que pas encore pour certains d'entre eux? Est-ce que jamais pour d'autres d'ailleurs? En tout cas, dans leur maison en l'état.
Oui, alors aujourd'hui, non, tout le monde n'est pas rentré chez eux. Il y a des gens qui ont tout perdu, hein. Donc, il y a plusieurs familles. Quelques-uns ont pu réintégrer, mais c'est une faible proportion de gens qui peuvent habiter chez eux parce qu'ils ont soit un étage qui est déjà aménagé et correct. Mais là, non, la grande majorité des habitants ne sont pas rentrés chez eux. C'est là maintenant où il va falloir penser les plaies à la fois matérielles et morales, parce que quand vous avez tout perdu, il y a des gens qui n'ont même pas une chaise ni une table pour s'asseoir, pour déjeuner, dîner chez eux, au moins recourir aux actions quotidiennes.
Il y en a eu déjà des épisodes de pluie chez vous, Laurent Laroche. Jamais, évidemment, vous le disiez à ce point-là. Est-ce que malgré tout, vous sentez depuis plusieurs années que ça finissait, pardon de vous le dire comme ça, mais ça allait finir par arriver parce que les pluies sont plus fréquentes, parce que les terres alentours sont moins entretenues peut-être qu'elles l'étaient. Est-ce qu'au fond de vous, vous disiez ça finirait par nous tomber sur la tête, cette histoire?
Oui, ça finirait par nous arriver. Et c'est vrai que moi, je suis maire depuis 2014, donc on a des inondations assez régulières et de plus en plus importantes depuis 2016. Donc, en effet, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Je pense que le réchauffement climatique est bien, bien présent chez nous. Mais aussi, il n'y a pas que. Il faut regarder sur l'artificialisation des sols, les modes de culture aussi. Et puis, le manque d'entretien des berges de l'Anglin, de cette rivière, qui était une rivière très calme et que quand on s'approche, quand on a l'occasion de naviguer sur ce magnifique cours d'eau où parfois on peut retrouver presque comme la mangrove, on se retrouve on a vraiment l'impression d'être ailleurs. Et ben là, voilà, il y a un manque d'entretien de la part des riverains. Il va falloir vraiment qu'avec les services de l'État, on tape du poing sur la table. Il va falloir changer les pratiques. Et c'est important parce que aujourd'hui il n'y a pas de victimes, mais demain on pourra pas dire on ne savait pas.
Changer les pratiques, Laurent Laroche, c'est ce que vous dites. En effet, est-ce que ça veut dire aussi que sur les maisons qui sont sinistrées, vous savez déjà, c'est peut-être compliqué à formuler pour les gens qui y habitent, mais vous savez déjà qu'on ne reconstruira pas, ou qu'il faudra reconstruire ailleurs, ou qu'il faudra de toute façon revoir toutes ces maisons qui sont si près du lit d'un fleuve dont nous savons maintenant jusqu'à quel point il peut être dangereux?
Bien sûr, il faut se poser la question aujourd'hui, en effet, qu'est-ce que l'on va faire de ces maisons qui sont vraiment touchées au bord de l'eau et qui sont touchées de plus en plus de façon régulière. Voilà, certains propriétaires m'ont carrément dit, non, on veut partir, on veut laisser. Alors, c'est pareil, cette maison, que va-t-elle devenir? Il n'est pas question forcément de remettre des locataires ou des propriétaires dans cette maison. Il va falloir tout ça étudier. Alors, c'est vrai que c'était peut-être un peu maturé, mais je pense qu'avec les services de l'État, avec toutes les composantes de l'État, des riverains, les associations, nous allons pouvoir discuter, se mettre autour de la table pour envisager l'avenir.
Laurent Laroche, vous êtes le maire de Bélabre, c'est dans l'Indre, merci beaucoup.
Sachez aussi qu'à Nîmes, dans le Gard, il n'a jamais autant plu. En mars, 242 mm de pluie cumulée, un record depuis l'installation de la station météo il y a 103 ans. Et pendant ce temps-là, en Grèce, il fait 31 degrés dans le sud du Péloponnèse, sous un nuage de sable venu d'Afrique qui se mélange au pollen et aux bactéries, un nuage toxique. Les personnes les plus fragiles ont été priées de porter un masque et des lunettes de soleil. La Turquie a un tournant, c'est le mot utilisé par le président Erdogan lui-même. Son parti, l'AKP, vient d'essuyer sa pire défaite depuis l'arrivée au pouvoir de son parti en 2002. Il promet, je cite, de respecter la décision de la nation. Le Parti républicain du peuple, principale formation de l'opposition, a gagné les grandes villes comme Istanbul, Ankara, Izmir, et conquis des fiefs conservateurs. Marie-Pierre Véraud, vous êtes la correspondante de France Inter à Istanbul et vous venez de rencontrer des électeurs d'un quartier qui a justement basculé dans l'opposition.
Nous sommes à Beyoğlu, sur la rive européenne du Bosphore, quartier très touristique, sa place Taksim, sa tour de Galata. Yuenten est assise à une terrasse de café et cette psychothérapeute arbore un large sourire.
Aujourd'hui, je me suis réveillée dans une sorte de sérénité. Pourquoi ? Parce que j'ai l'espoir que d'autres choses vont suivre, qu'il y aura un changement. Un changement dans la société turque qui est tellement polarisée. J'espère maintenant que cette sorte de guerre entre nous a pris fin.
Le maire İmamoğlu a d'ailleurs lancé un appel à la réconciliation de tous en Turquie hier soir. Kurdes et Alevis, sunnites et arméniens. Un peu plus haut sur la place Taksim, Dündü tire son kaba et fait la grimace sous son voile. Elle avoue avoir voté pour le parti du président, mais s'en repent, critiquant Recep Tayyip Erdogan sans le nommer.
J'ai 71 ans, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais une vie si chère, je n'ai jamais vu cela avant cette année. Il a laissé flamber les prix. Tu vas au magasin aujourd'hui, ça coûte 3 livres. Et demain, 5 livres. Il nous a trompés. Le Dieu voit tout cela. Et c'est fini maintenant. Sa vie politique est finie. Bye bye.
La fin de la vie politique du président ? Pas sûr, mais la colère est palpable dans les rangs de nombre de ses électeurs. Derrière sa machine à coudre, Yüksel, un tailleur du quartier, savoure lui sa revanche.
Il disait que 2024 serait l'année des retraités. C'est vrai, les retraités lui ont donné une bonne leçon.
Une raclée même, ajoute-t-il en éclatant de rire.
Marie-Pierre Véraud, correspondante de France Inter à Istanbul. L'armée israélienne se retire peu à peu de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, désormais en ruine. Après 2 semaines d'opération, le ministère de la Santé du Hamas avance un nouveau bilan global de plus de 32 800 morts. Israël qui continue de traquer aussi les militants du mouvement islamiste et qui a arrêté la sœur du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, en Israël où elle vit dans le sud du pays. Omar Waman, cette femme de 57 ans est soupçonnée de complicité.
C'est dans le cadre d'une enquête pour terrorisme que Sabah Abdel-Salam Haniyeh a été arrêtée ce matin. La sœur cadette du chef du bureau politique du Hamas, qui possède la nationalité israélienne, est soupçonnée d'infraction à la sécurité, de liens avec des membres du groupe islamiste et d'incitation au terrorisme. Lors d'un raid de la police baptisé Levée de soleil précoce et qui a mobilisé d'importants moyens, unités spéciales et police des frontières, des documents compromettants ont été découverts, notamment dans des téléphones qui prouvent que la sœur du chef du Hamas est bien liée à des actes qui menacent la sécurité de l'État hébreu. Cette arrestation devrait relancer le débat sur la présence en Israël de membres de la famille du chef du Hamas, dont 3 sœurs sont mariées à des bédouins israéliens, selon le Jerusalem Post. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé à plusieurs reprises à leur expulsion d'Israël, des appels qui devraient trouver de nombreux soutiens après bientôt 6 mois de guerre contre le Hamas.
Et Israël frappe aussi ce soir. Le consulat iranien à Damas, en Syrie, a été pris pour cible. Un raid inédit dans le quartier des ambassades qui aurait fait 8 morts selon des ONG. Et un média iranien affirme qu'un commandant des gardiens de la Révolution a été tué à cette occasion. 6 jours après la chute du pont de Baltimore aux États-Unis percuté par un porte-conteneur, un couloir temporaire de navigation va être créé. Une partie des décombres va être dégagée pour laisser passer les navires dits essentiels, mais qui ne seront pas trop volumineux. Baltimore est l'un des points d'accès majeurs du commerce sur la côte est des États-Unis.
Le bourg du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence, coupé du monde, au moins pour une semaine.
Une centaine de gendarmes passent au crible l'endroit où des ossements du petit Émile ont été retrouvés par une randonneuse. 9 mois après la disparition de l'enfant, à la recherche de traces et d'indices qui permettraient de comprendre les circonstances de sa mort. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir à tous.
Vous êtes près du hameau et des experts sont sur place en ce moment.
Oui, avec l'aide de chiens spécialisés, de drones, les enquêteurs ratissent l'endroit où ont été découverts des ossements du petit Émile, un crâne notamment. Des experts en anthropologie, en médecine légale sont mobilisés. Ils cherchent dans une zone à un peu plus d'un kilomètre du Haut-Vernay. Roland habite le hameau, il connaît très bien ce secteur, il décrit un terrain accidenté.
C'est une espèce de steppe un petit peu vallonnée avec des pierres, des branches, et des petits vallons qui descendent à 2-3 mètres de profondeur. Pour une équipe de gendarmes, c'est pas infranchissable, mais pour un petit, c'est infranchissable.
Seule l'enquête permettra de dire si Émile a pu se rendre tout seul dans ce secteur, si c'est là qu'il est décédé ou si ses ossements ont pu être déplacés. Les gendarmes n'écartent aucune piste et les habitants espèrent des réponses. La confirmation de la mort du petit garçon a beaucoup ému ici Hélène, une habitante du Vernay.
Je me suis mise à pleurer parce que j'étais sous le choc de l'annonce de sa mort, parce que ça reste un petit garçon, parce que ses photos ont été vues partout. Oui, c'est un choc, c'est la mort d'un enfant. Je crois qu'ici, dans le village, tout le monde aimerait connaître le fin mot de l'histoire, au-delà de la curiosité, pour apaiser les esprits.
Les recherches vont se poursuivre aussi longtemps que nécessaire, précise la gendarmerie.
Mathilde Vincent, en direct du Haut-Vernet. Un nombre record depuis le début de l'année. Près de 800 migrants ont traversé la Manche ce week-end. 16 embarcations surchargées sont arrivées en Angleterre. Côté français, 78 personnes ont dû être secourues. C'est une information de France Bleu Nord. L'Allemagne est désormais le plus grand pays d'Europe à légaliser le cannabis. C'est le troisième pays européen après Malte et le Luxembourg. En France, en pleine opération PlaceNet XXL, le ministre de l'Intérieur mène autrement la lutte contre les stupéfiants. Mais il y a de quoi relancer le débat. Ainsi, le maire de Bègles, près de Bordeaux, l'écologiste Clément Rossignol-Puech, a mis en place depuis un an un comité consultatif et il aimerait bien mener l'expérimentation.
Ma demande d'expérimentation, ça serait sur un temps défini, 2 ans, peut-être renouvelable, pour une centaine de Béglaises et de Béglais, déjà consommateurs, et ils seraient accompagnés par des équipes pluridisciplinaires pour suivre leur consommation, leur donner des conseils. Ils pourraient acheter légalement du cannabis produit sur place, local, avec des taux de THC contrôlés, donc un panel de taux de force du cannabis. Ils pourraient consommer sur place et à leur domicile, hein, pas dans l'espace public. Donc les Béglaises et les Béglais, je peux vous dire que quand je fais des réunions public sur ce sujet. À Bègles, ça se passe bien, le débat est apaisé, il y a des questionnements bien sûr, mais c'est plus facile d'expliquer qu'on va encadrer le cannabis et le légaliser que par exemple supprimer des places de stationnement dans une voirie, hein, parce que là ça devient conflictuel. Alors que le cannabis, bah, les gens sont prêts, voilà, sur le marché, les gens m'interpellent, ils me disent bah oui c'est bien, il faut bouger, on est dans une impasse, il faut expérimenter, il faut essayer.
Le maire de Bègles interrogé par Ajra Mohamad. Ils ont fait la fête durant tout le week-end. 8000 teufeurs ont quitté comme prévu cet après-midi le site de l'aéroport de Quimper, qui n'est plus en service depuis le mois de novembre. 83 personnes ont dû être prises en charge par les secours durant le week-end. 4 autres arrêtées, dont 3 pour détention de stupéfiants. Les élus basques mobilisés, 2 militants vont être jugés demain matin devant le tribunal correctionnel de Paris pour détention d'armes en relation avec une entreprise terroriste, à savoir l'ETA. Sauf qu'ils n'en sont pas membres et qu'ils affirment avoir justement voulu neutraliser un arsenal du groupe séparatiste. Ils avaient été arrêtés en décembre 2016 à Louossoua avec un stock d'armes. 7 ans après, Morgane Klein refait, la classe politique locale fait bloc autour d'eux, surnommés les artisans de la paix.
Les 2 prévenus disent avoir joué les intermédiaires entre ETA et le gouvernement pour le désarmement. Les juger dans le cadre d'une affaire terroriste, c'est donc un non-sens pour le député socialiste Iñaki Etxaniz.
S'il n'avait pas été là, la paix ne serait pas là aujourd'hui. C'est une unité du Pays Basque. On a réussi à regrouper plus de 5000 signatures au niveau national et international, dont plus d'une trentaine de parlementaires de tous bords politiques.
Sa collègue sénatrice Frédérique Espagnac acquiesce.
Je pense l'union sacrée. Il est urgent que la justice affirme qu'ils ne sont pas évidemment des terroristes, bien tout le contraire, et qu'ils ont joué un rôle majeur dans l'apaisement du Pays Basque.
Du PS à LR, tous sont sur la même ligne. Et Anaïs Funosa, présidente du mouvement civil soutenant le processus de paix, ironise.
On a un parquet national antiterroriste qui va passer son temps à rappeler que ces actes-là étaient terroristes et il va se retrouver face à des témoins qui sont des élus ou anciens élus de notre territoire et d'autres qui ont été en gestion pour l'État.
L'ex-préfet Éric Morvan et l'ancien ministre de l'Intérieur Mathias Fekl doivent ainsi témoigner, notamment pour raconter comment d'autres opérations de désarmement se sont faites par la suite en lien avec des militants basques.
Allez, partons dans le monde de l'intelligence artificielle. Pour finir, OpenAI, la maison mère de ChatGPT, vient de développer un nouvel outil. Après le texte, la vidéo, elle va reproduire des voix, Julien Baldacchino, des voix à partir de la nôtre, de la vôtre.
Il suffira d'un extrait de 15 secondes de votre voix pour créer un double vocal.
Friendship is a universal treasure. It brings joy, support and laughter into our lives no matter where we are in the world.
Voici un exemple de voix humaine en anglais et voici sa version traduite en français par le Voice Engine, le moteur vocal de ChatGPT.
L'amitié est un trésor universel. D'où que nous venons, elle apporte joie, soutien et rire dans nos vies.
Parmi les applications possibles de cette fonction très réaliste, l'entreprise OpenAI évoque donc non seulement la traduction, mais aussi la possibilité de rendre du contenu accessible à ceux qui ne savent pas ou ne peuvent pas lire, ou encore la perspective d'une reconstruction vocale de personnes qui auraient perdu tout ou partie de leur voix suite à des problèmes de santé. Pour l'heure, l'outil est déjà déployé, mais seulement pour des clients professionnels de l'entreprise. C'est par exemple ce moteur qui qui sert à la traduction de certains podcasts sur la plateforme Spotify. La fonction devrait être accessible au grand public, mais dans un premier temps, OpenAI veut prendre le temps d'empêcher les utilisations abusives. Il faudra pouvoir prouver que l'on a bien le droit d'utiliser une voix que l'on clone, et une liste de voix célèbres qui ne peuvent pas être utilisées va être mise en place.
Alors on espère que votre voix, Fabienne, sera dans cette fameuse liste.
Oui, alors Stéphane Jourdain joue beaucoup avec ma voix, je crois qu'il veut ma perte. En réalité, mais Christelle, merci beaucoup. Vous reviendrez tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Vous passerez sous les radars, nous apporter l'actu internationale qu'on aurait ratée. On jette un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Élodie Calac, bonsoir. Attention, vigilance rouge crue en Bourgogne.
Oui, sur la Côte d'Or et Lyon, pour la crue majeure de l'Armançon. 8 autres départements restent en vigilance orange vers la Bourgogne, le centre-ouest et la basse vallée du Rhône. Ce soir, les averses vont s'estomper progressivement. Demain matin, le soleil l'emportera sur les régions du sud. Ce sera nuageux au nord, avec quelques averses vers les frontières du nord, jusqu'au nord des Alpes. Des averses plus marquées quand même au nord de la Seine. Et puis, de nouvelles pluies irrégulières gagneront la Bretagne jusqu'aux Charentes. Il y aura un vent de sud-ouest assez fort près de la Manche, du vent aussi sur les Pyrénées, sur la Corse, et pour les températures, souvent 4 à 8 degrés le matin.
Et l'après-midi, ces pluies vont progresser vers l'est.
Oui, elles vont progresser vers la région parisienne, vers la Normandie. Ce sera très voilé du Pas-de-Calais vers la Bourgogne, le centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine, mais ailleurs le soleil sera bien présent. Et puis il fera 13 à 17 degrés au nord et 17 à 21 au sud.
Et merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.